Nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te louons pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour, pour tout ce que tu es. Mes mots ne suffiront jamais, au grand jamais, à te remercier. Tu m'as fait ce cadeau un jour, tu es venu et tu t'es présenté et tu m'as proposé cette communion sans que je fasse quoi que ce soit. Et tu es venu habiter dans mon esprit par ton Saint-Esprit. Et depuis, tu m'accompagnes. Je rejoins la prière de mon frère Didier. On ne sait pas, mais on a la conviction que tu étais avec moi depuis ma jeunesse. Ce n'est que le début de notre chemin. Parce que tu nous invites encore une fois à marcher avec toi et pour arriver à cet objectif final, celui de te rejoindre pour l'éternité. Seigneur, quand tu viendras chercher ton Église, je te prie de ne pas me laisser à côté. Que je puisse faire partie de celles et ceux que tu vas élever vers toi. Et cette prière, je la fais pour mes frères et sœurs de cette Église. Cette petite communauté. Ce que nous vivons est surnaturel. Parce que c'est surnaturel que nous pouvons que nous incliner devant toi. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas raisonner. Comment pourrais-je avoir une tête comme ça qui va disparaître et qui peut t'expliquer? Pardonne-moi, Seigneur. Ouvre notre cœur à te recevoir comme notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Maître, et que nous restions à vie, à genoux devant toi. C'est ma prière pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Et c'est une prière pour ma propre famille, pour Viviane, pour Ryan, pour Zacharia, pour Inès et pour moi-même. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Le message d'aujourd'hui, donc c'est la continuité. Et comme il est long, donc mon frère Toby a proposé, il l'a fait, je trouve que c'est une très bonne idée, de lire le passage en entier avant que je le partage avec vous. Il y a beaucoup à dire sur ce passage. Je précise que c'est le passage qui concerne le chapitre 5 de l'évangile de Marc, chapitre 21 et 43. Il s'agit d'une histoire, on peut en faire un film, avec de l'intrigue. Voilà Jésus qui se balade entre deux rives, il traverse le lac, il a fait un aller, un retour, et voilà que dans la foule, il y a un certain Jaïrus, un juif reconnu, respecté, pas n'importe qui. C'est-à-dire un représentant de la loi qui vient s'agenouiller devant Jésus. Déjà, un miracle. Il combattait Jésus alors qu'il vient s'agenouiller devant lui pour lui demander de guérir sa fille qui est en train de mourir. Vous savez, jusqu'à maintenant, on a appris dans les études de jeudi soir et souvent quand on explore l'Ancien Testament, je dis toujours, avant de commencer, regardons d'abord ce que signifie le prénom du prophète. Parce que le prénom en lui-même est un message. Et vous savez, Jaïrus, ce que ça veut dire, celui que Dieu éclaire. Oui. Donc Dieu veut nous éclairer à travers Jaïrus et à travers cette histoire. Le Seigneur a vu sa foi, alors il a dit on y va. Mais voilà quelque chose sur la route qui retarde encore l'intervention de Jésus. Une dame qui souffre, une femme qui souffre. Il la guérit et il va ressusciter cette jeune fille. C'est une histoire, on peut la prendre de différents côtés. On peut faire plusieurs messages. Ça dépend comment on prend ce sujet-là. Il n'y a pas qu'un seul message. Ça dépend de quel côté on prend le sujet. Donc vous comprenez que c'est subjectif ce que je vais vous présenter. Ce message m'a parlé d'une manière que je partage avec vous. Vous pouvez le recevoir différemment. Et c'est normal aussi. J'ai toujours appris, quand je lis la Bible, c'est qu'une virgule a un sens. La Bible n'est pas seulement un livre historique. Souvent, on lit la Bible à travers l'histoire. On fait même mieux. Souvent, on prend un verset et on fait un message dessus. Mais c'est une erreur. une grave erreur. Le verset s'explique par le contexte, c'est-à-dire tout l'évangile, c'est-à-dire le passage que je vous donne là, ne trouve sens que si j'ai une vision globale de l'évangile de Marc. D'accord ? Et l'évangile de Marc n'a de sens s'il est pris dans tout le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament n'a de sens s'il est pris dans toute la Bible. Donc tout ce que je vais vous dire là n'a de sens que si l'Église a une vision globale du plan de Dieu. Vous voyez ? Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on peut faire n'importe quoi, aller sur ChatGPT. Rentrez le verset, il vous fait un message. Mais l'Église, elle n'a pas cette vision globale, la vision que le Seigneur pour nous, tout ce que nous dirons, ce sera juste des paroles intellectuelles avec de bons mots, et ça ne fait pas d'effet. Quelle est la vision ? Pourquoi nous sommes réunis ce matin ? Nous sommes réunis parce que nous croyons en Jésus-Christ, comme Jean le dit, Jésus, le Fils de Dieu. Et nous le confessons. Si vous dites, vous êtes chrétien et vous avez un doute sur le fait que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jean nous dit, vous n'êtes pas des chrétiens. C'est clair et net. Jésus est le Fils, répétez après moi mes frères, Jésus est le Fils de Dieu. Encore une fois, troisième fois. Merci Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et si Dieu a fait venir son Fils, c'est pour nous amener tous vers Jésus. Le premier Adam, quand il a été créé, Dieu, déjà dans sa pensée, il le voit aller déjà vers Jésus. Ça veut dire que tout être humain, tant qu'il ne rencontre pas le Seigneur Jésus, il est malade. Il est aliéné, il est à côté de la plaque. C'est le terme qui veut dire péché. Et le mot péché veut dire à côté de la cible. Donc toute personne qui ne rencontre pas le Seigneur dans son cœur, elle demeure aliénée, elle demeure inachevée, elle demeure dans les ténèbres. C'est pour ça que nous annonçons Jésus, comme le chemin, la vérité et la vie. Quand vous parlez de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, prêchez, parlez du Seigneur comme l'aboutissement, la raison, le centre même du plan de Dieu. Ne débattez pas sur des sujets inutiles. Parler du Seigneur directement. Ma religion d'origine, elle peut être à 99% d'accord avec moi, mais les 1%, c'est ce qui fait que de moi je suis chrétien. On remet en question Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nous, ressuscité, monté au Père, nous envoie l'Esprit Saint, il est devenu le chemin, la vérité et la vie pour nous. Je discutais hier avec nos frères et sœurs iraniens et je leur disais clairement, mes frères et sœurs, je refuse personnellement, solennellement, d'aller dans une communion écuménique avec plusieurs religions, les musulmans, les catholiques, le judaïsme. Parce qu'on va être unis sur quoi ? Sur quoi on est unis ? Il faut être honnête avec soi-même, il y a un prix à payer. Si je vais dans une réunion pour mettre de côté tout ce qui nous divise, qu'est-ce qui reste ? C'est-à-dire, si je vais dans une réunion et j'accepte en tant que chrétien de mettre mon Jésus de côté et la croix, quel blasphème, quelle insulte, c'est terrible ça. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est le prix à payer. Alors c'est pour ça que l'évangile de Marc commence par le titre de tout l'évangile. Ça... Marc est en train de nous dire, voilà le titre de mon évangile. Il a mis le titre. C'est quoi le titre ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En fait, il a mis le titre, Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire. Et tout l'évangile nous parle de Jésus, Christ et Fils de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que je vous invite, mes frères et sœurs, à partager. Qu'on partage ensemble ce que je vais partager avec vous, j'ai préparé humblement avec vous. Nous sommes en présence de plusieurs personnages dans notre passage. Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Nous sommes en présence de plusieurs personnages qui se croisent par moments. Jésus qui est au centre de notre récit, vous l'avez remarqué, il est question de Jésus au centre. Tout passe par lui. Les disciples de Jésus, qui sont présents tout le long, sauf à la fin, et il ne prend avec lui que trois disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il est question de la foule qui suit le Seigneur et qui le presse. Il y a la femme atteinte de perte de sang. Il y a Jairus et sa famille. Et il y a la jeune fille de Jairus. Toute cette histoire, mes frères et sœurs, je vous invite à aller au-delà de l'histoire. Ça ne m'intéresse pas l'histoire pour l'histoire. Ça veut dire, la question c'est qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cette histoire? Quel est le message spirituel qu'il veut nous dire? Et vous savez, le message spirituel du Seigneur ne s'adresse pas à notre tête. Ça peut venir, ça. Il peut le permettre. Mais ce n'est pas une condition, ça. Si je ne comprends pas, ça ne veut pas dire que je n'ai pas reçu la parole de Dieu. Si c'est votre cas, c'est malheureux. Si vous dites d'abord je comprends pour croire, que dirons-nous de certaines personnes handicapées qui n'arrivent pas à réfléchir? Donc, le message du Seigneur, vous l'envoyez par son esprit qui va où? Dans notre esprit. C'est là où nous devons chercher à le recevoir. Et parce qu'on le reçoit dans notre esprit, Dieu peut le permettre dans sa grâce, et c'est bien que nous le comprenons. Mais si je ne comprends pas, ce n'est pas grave, je sais que je l'ai reçu. Et quand on dit recevoir dans notre esprit, c'est la Bible appelle notre cœur, c'est la même chose. Ou la Bible appelle notre être intérieur, qui est créé justement pour recevoir l'Esprit de Dieu. Les animaux ne l'ont pas. Hein. Ceux qui veulent créer une égalité entre les hommes et les animaux n'ont rien compris aussi. L'animal n'a pas l'esprit. C'est pas possible, ça. Il faut le savoir. Un animal, Dieu n'a pas créé en lui un esprit animal pour recevoir l'esprit de Dieu. Déjà, en le disant, j'ai déjà blasphémé. Dès la Genèse, Dieu a soufflé dans l'être humain un souffle de vie. Il a créé en lui un esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Et c'est là que Dieu en parle à l'homme dans son esprit. C'est-à-dire quand Jésus nous parle, quand l'Esprit Saint nous parle, il va dans notre esprit. Mais cet esprit, il est actif depuis quand? Il est là, mais il est mort. Il n'agit pas. Il s'ouvre, il est actif quand nous recevons le Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin de recevoir le Seigneur. Comme ça, on peut l'entendre, le recevoir dans notre esprit, par son esprit. Nous avons aussi dans notre histoire un contexte. Nous avons le lac de Tibériade et ses deux rives. Tobie est revenu en long, en large la dernière fois. Nous avons le chemin qui mène à la maison de Jairus. Nous avons aussi une symbolique. Ça doit nous interpeller. Ça m'a en tout cas interpellé. Une symbolique représentée par le chiffre 12. La femme souffrait pendant, elle souffre depuis 12 ans, ils auraient pu nous dire 10 ans, 8 ans, 15 ans, non, elle souffre depuis 12 ans. Et le Seigneur a ressuscité une petite fille, quel âge? 12 ans. Pourquoi 12? Hein, ça vous fait penser déjà. 12 tribus, 12 apôtres, 12 portes du... Là, encore une fois, le Seigneur est en train de nous dire, j'ai un message pour vous, à travers le chiffre 12. Nous le verrons tout à l'heure. Il y a de quoi faire un film qui nous tient en haleine. Eh bien, mes frères et sœurs, tout de suite, je vous dis que cette histoire, c'est nous. Il est en train de parler. C'est notre histoire, celle-là. C'est la nôtre. Chacun de nous, on passe par cette histoire-là. Si nous comprenons le message que le Seigneur veut s'adresser à l'Église. Toute cette histoire, avec son contexte et ses symboles, renferme un message spirituel pour nous. Nous ne minimisons pas la portée des miracles accomplis par le Seigneur dans cette histoire. Et nous croyons jusqu'aujourd'hui que le Seigneur fait des miracles. Il l'a fait hier, aujourd'hui et demain. Nous croyons que le Seigneur fait des miracles. Il peut faire des miracles dans notre Église. Il le fait. Nous croyons, ne rejetons pas ça. Mais au-delà du miracle, qui va disparaître avec le corps, quel est le message éternel qui va rester avec nous? Le message spirituel. Se contenter de raconter ces faits miraculeux, réels et historiques nous condamne malheureusement à passer à côté d'une réalité spirituelle plus grande. Notre esprit a besoin de nourriture. Donc la question que nous devons nous poser en tant que chrétiens et en tant qu'Église, corps du Seigneur, est la suivante. Je vous la propose. À travers cette histoire, ce contexte et ce symbole, quel message spirituel le Seigneur veut nous transmettre à travers la femme souffrant d'hémorragie et à travers la fille de Jairus? Pour moi, c'est la question que nous devons nous poser. Et nous partons pas ce matin, tant que dire Seigneur, dis-moi ce que tu veux me dire à travers cette histoire. Alors, je vous propose, à titre personnel, un titre. Je vous le dis. Je vous le transmets comme je l'ai reçu personnellement. Le titre est le suivant. De la loi à la grâce, de la mort à la vie, de la femme souffrant d'hémorragie à la fille de Jairus. Alors, je vous propose cette évolution du message. Je reviens rapidement sur le lac et ses deux rives. Qu'est-ce que j'ai compris personnellement à travers cette histoire ? Jairus est la femme souffrante de la loi à la grâce. La fille de Jairus, la promesse de la vie et de résurrection. Et je conclurai par la symbolique du chiffre 12. Le lac et ses deux rives. Tobie en a parlé. Jésus navigue d'une rive à l'autre. Au-delà de cette histoire, on doit nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, Jésus, en allant d'une rive à une autre, en passant par le lac de Tibériade. C'est ça, en fait, qu'il faut chercher, qui m'intéresse. Le reste, à la limite, je dis, c'est intéressant pour moi. Oui, pour passer un bout de temps devant la télé sur une histoire, oui, mais en plus de ça. Jésus navigue d'une rive à l'autre, marquant un parcours spirituel essentiel. D'un côté, avant de prendre le bateau, la barque avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé par enseigner, de surcroît par des paraboles. Il traverse la rive, pour quoi faire ? Pour délivrer des possédés. Qu'est-ce qu'il fait après ? Puis il retourne accompagner son enseignement par des miracles qui restaurent le corps et l'âme. Et entre ces deux rives, il traverse la tempête avec assurance, conviction et foi, démontrant son autorité sur tous les éléments. Cet aller-retour, mes frères et sœurs, c'est notre cheminement chrétien. La parole toute seule ne suffit pas. Nous pouvons la connaître par cœur. Nous pouvons connaître les paraboles. C'est ce qu'il a fait. Mais il est en train de nous dire, mes frères et sœurs, il faut passer à la pratique. La parole sans vie n'a aucun sens. Et cette pratique s'acquiert comment ? En traversant les tempêtes. C'est la barque dans le lac. Ça veut dire quoi ? Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, Dieu nous fait passer par les épreuves. Les épreuves nous donnent sens à la parole que nous avons reçue. Elle devient vie en nous. D'un seul coup, on découvre un Jésus qui maîtrise tout. Et c'est à ce moment-là seulement, mes frères et sœurs, je peux aller chasser les démons. Et je peux faire demi-tour, faire des miracles. Juste cet aller-retour, le Seigneur est en train de nous montrer le chemin à suivre. Nous avons vu que le Seigneur commençait par enseigner ses disciples et une foule qui le suit et qui le presse, une foule dans la majorité, le suit par curiosité, car elle le voit uniquement comme un faiseur de miracles. Mes frères et sœurs, comment voyons-nous notre Seigneur ? Est-ce que je le vois comme quelqu'un qui fait des miracles dans ma vie ? Me faire du bien ? Et la semaine, je fais ce que je veux ? Est-ce que le fait d'être à côté de vous quelqu'un qui est en train de blasphémer devant le Seigneur, et vous restez comme ça et dire « Oh, c'est pas grave, il est en train d'insulter le Seigneur. » Vous devez avoir quelque chose en vous qui dit « Mon frère, arrête de parler comme ça du Seigneur. » C'est mon Dieu. Le Seigneur explique le chemin qu'il faut suivre pour que Dieu règne dans les cœurs. Il nous a parlé du royaume de Dieu. Et il a annoncé par avance l'indispensable rôle spirituel de la croix dans le cœur du croyant. Ce dernier doit passer par un brisement progressif qui le fait passer de la mort spirituelle à la vie. Et on l'a fait. On l'a expliqué. Un cheminement où le croyant apprend à se confier dans le Seigneur à travers une communion avec lui. Ces paroles sont ponctuées d'épreuves. Ne négligeons pas les épreuves, mes frères et sœurs. On n'apprendra jamais sans les épreuves. Et souvent, Dieu permet des fois qu'on recule. Je dis toujours, pour sauter un trou, il vaut mieux reculer. On saute mieux. L'épreuve joue son rôle. Ne la négligeons pas. Sans épreuve, on n'avancera pas. Jamais on n'avancera sans épreuve. Si vous pensez que la vie chrétienne, tout va bien, ce sera un semblant de vie chrétienne. Mais si les épreuves ne se présentent pas à nous, on ne comprendra pas. J'ai aimé mon frère Adman quand il m'a dit, avec les épreuves qu'il a vécues en Iran, il m'a raconté une histoire. On lui a tout pris, c'est bien. On l'a obligé à tout abandonner. Écoutez bien. On l'a obligé à tout abandonner en signant devant la contrainte. Plus tard, il a compris. Le Seigneur, il était en train de me dépouiller de tout pour qu'il n'y ait plus que lui. Quel beau témoignage. Et nous, on continue à nous battre sur nos droits. Mes droits. Ah non, c'est mes droits. Non, attends, il faut que je défende. Quand même. Le Seigneur a tout abandonné, y compris son royaume, y compris sa vie, pour venir au milieu de nous. Ces paroles sont ponctuées par des épreuves et d'expériences dans la tempête qui fait rage au milieu du lac de Tibériade et qui d'un côté fait paniquer les disciples et d'un autre côté montre le calme, la sérénité et la maîtrise des événements par le Seigneur. Sans l'expérience pratique, mes frères et sœurs, de la croix, et je commence par moi le premier, je l'avoue, je me confesse devant le Seigneur en parlant. Je ne suis pas en train de vous regarder, je ne suis pas meilleur que vous, vous êtes meilleur que moi, je suis pire que vous si je regarde ma vie. Et je le répète, sans l'expérience pratique de la croix dans notre vie, et le rôle que jouent les épreuves, les adversités dans nos vies, nous ne pouvons pas expérimenter cette paix, ce calme surnaturel du Seigneur. Et nous ne pourrons pas traverser les adversités, nous ne pourrons pas chasser les démons, nous ne pourrons pas prier pour les gens qui soient guéris. Bien que le Seigneur nous dépasse, malgré notre incrédulité, il fait quand même des miracles. Armé par l'expérience du dépouillement et de la mort à soi-même et une communion d'esprit avec le Seigneur, nous pouvons prendre, comme le Seigneur, prendre autorité sur les esprits démoniaques. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà le cheminement de l'apôtre Paul qui a tout perdu. À présent, le Seigneur reprend son chemin à travers une autre histoire. Une autre expérience qui renferme un autre message spirituel pour nous. Il s'agit de la femme souffrant de perte de sang et la fille de Jairus. Dans la foule qui suit Jésus, un homme se distingue, Jairus, un chef de synagogue. Contrairement à la majorité de ses pairs, il reconnaît quelque chose de surnaturel en Jésus et va jusqu'à s'agenouiller devant lui. Quel blasphème pour les Juifs, pour les Israélites de son époque. Je ne sais pas s'il a mesuré la portée de son geste qui risque de le condamner par sa propre communauté. Lui, le guide, respecté et respectable de sa communauté. Cette attitude est rendue possible, pourquoi, mes frères et sœurs, par l'épreuve. Voilà ce chef de synagogue qui se montre devant tout le monde. Dieu l'a abattu par la souffrance de sa fille qu'il aime tellement. C'est comme si le Seigneur me disait, voilà ta petite Inès, mais je ne peux que m'agenouiller. Moi, le convaincu de que je sais, si on touche à ma petite fille, mais je suis terrassé. Je ne peux pas faire autrement que de m'agenouiller, même devant vous. Il a fait ça avec Jairus. Mais la question, devons-nous attendre jusqu'à subir ça? Le Seigneur, des fois, nous dit, agenouillez-vous avant. Et il le fait par amour, encore une fois. Cette attitude est rendue possible par tout ce qu'il a entendu de Jésus et par son épreuve personnelle, sa fille mourante. Par sa sincérité et par sa foi aussi. Le Seigneur connaît le cœur de ceux qui viennent vers lui. Il ne connaît par cœur. Il ne s'agit plus d'une simple discussion théologique. Alors là, on n'est plus dans la théorie, là. C'est dans la pratique, dans la souffrance réelle, théologique. Mais d'un besoin vital. Jairus passe mets de côté tous ces principes religieux et viens s'agenouiller devant Jésus. L'épreuve l'a amené à s'en détacher pour faire confiance au Seigneur Jésus. Sa sincérité et sa foi touchent Jésus qui accepte d'intervenir avec amour. C'est un enseignement pour nous. Souvent, nous ne progressons pas spirituellement dans notre marche avec le Seigneur. Et si je vous le dis, parce que c'était ma vie il y a quelques années. C'est pour ça que je vous en parle. Moi, le premier, je suis passé par là. Donc, je peux vous en parler. Et souvent, l'obstacle réside dans quelque chose que nous ne voulons pas confesser et abandonner en nous. Eh bien, mes frères, sœurs, je vous le dis, tant que vous ne l'avez pas confessé, abandonner quelque chose que le Seigneur a mis le doigt dessus, ça ne bouge pas. Jusqu'à qu'on soit humilié et on confesse. Alors le Seigneur permet par amour que nous traversions des épreuves salvatrices qui nous brisent et qui nous ouvrent les yeux et qui nous aident à abandonner ce qui fait obstacle à notre marche avec le Seigneur. Ces situations peuvent se répéter jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. Et là, miraculeusement, on découvre la délivrance et la libération tant attendue que le Seigneur nous dit, il était toujours là, mais c'est vous qui mettez tout ce temps-là. C'est le cas de Moïse, c'est le cas de Jonas, c'est le cas de David, c'est le cas de Pierre, c'est le cas de Paul, et je continue. C'est le cas de chacun de nous, mes frères et sœurs. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Auprès du Seigneur, Jairus semble pressé. La situation est urgente. Ça ne peut pas attendre. La petite fille de 12 ans est mourante. Il ne faut pas tarder, semble penser Jairus. Il faut mettre les gyrophares et se frayer un chemin dans la foule vers la maison de Jairus. Eh ben non, c'est pas passé comme ça. Avec le Seigneur, ça se passe autrement. Eh bien, ça ne se passe pas comme Jairus a prévu. Dans notre vie, ça ne se passe pas comme nous prévenons, parce qu'on fait des plans aussi. Je veux que ça soit comme ça ma vie, comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Car sur la route, une femme souffrante sort de l'ombre, et voilà qu'elle retarde le Seigneur. Elle va retarder le Seigneur. Elle va nous retarder, semble penser, murmurer Jairus et les disciples avec lui. C'est pas possible, d'où elle sort cette femme? On est pressé, nous. On a un objectif. Vous voyez, on regarde que le nôtre objectif. Le reste, allez, mettons de côté. En plus, quel blasphème! C'est une femme impure d'après la loi mosaïque qui ose toucher le Seigneur. Alors regardez, une femme impure qui touche le Seigneur qui est pur et le Seigneur qui prend son impureté et lui donne la pureté. C'est pas le message de la croix. Heureusement que la foule et les disciples ne le savent pas. Heureusement pour elle. Ouf. Mais le Seigneur, lui, il le sait. Il sait qui est la femme. L'ancienne alliance, on appelle première alliance, est le cadre de la relation entre Dieu et son peuple. Israël établit principalement à travers la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Le but de la loi était d'enseigner la sainteté de Dieu et de révéler le péché de l'homme. Car nul ne sera justifié pas devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà le rôle de la loi. C'est tout. Elle montre ce qui est bien, ce qui est mal, mais elle ne délivre pas, la loi. Si vous croyez que la loi délivre, c'est là ma discussion avec Jean, par exemple, sur les lois coraniques. Ça montre c'est bien mal, mais ça ne délivre pas. C'est comme un code pénal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Si tu fais mal, voilà, tu auras ton année de prison. Mais ça ne libère pas le voleur ou le meurtrier. C'est sans cœur, ça c'est autre chose. La loi servait de tuteur jusqu'à la venue du Christ. L'ancienne alliance établie par Dieu avec le peuple d'Israël à travers la loi de Moïse contenait des prescriptions strictes concernant la pureté rituelle et les sacrifices. La femme souffrant d'hémorragie, selon la loi, était considérée comme impure. Oui, la femme qui aura un flux de sang, d'après la loi mosaïque, sera impure tout le temps de son flux. Et quiconque les touchera, c'est-à-dire elle, ses habits, son lit, dès qu'on touche, on devient impur. Ça, c'est la loi. Vous voyez comment elle condamne la loi? Elle exclut la loi. Elle ne libère pas. Cette femme était considérée comme impure en raison de son flux de sang, ce qui l'excluait de la vie communautaire et religieuse. Son incapacité à être purifiée montre les limites de l'ancienne alliance, qui reposait sur des rituels externes plutôt que sur une transformation intérieure. Bien que la loi et les sacrifices aient été institués par Dieu, ils ne pouvaient pas transformer le cœur de l'homme, ni procurer une rédemption définitive. La prophétie de Jérémie annonce une nouvelle alliance. Déjà dans l'Ancien Testament, la prophétie est dite. La loi, ce n'est qu'une facette début. Mais il y a un autre objectif. Celui, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. En autrement dit, j'enverrai mon esprit, Dieu qui dit, dans votre esprit, et là, il y aura une relation, une communication directe entre vous et moi. Et d'un seul coup, votre vie sera transformée, et la loi sera écrite dans votre cœur. La loi condamne, mais ne délivre pas. En condamnant, la loi ne peut qu'exclure l'âme pécheresse. Ainsi, la femme à la perte de sang ne souffrait pas seulement d'hémorragie dans son corps, mais aussi et surtout de rejet quotidien de ses contemporains, en raison de son état d'impureté persistant. De plus, elle-même, consciente de sa situation, devait certainement fuir les gens et tout faire pour se tenir loin d'eux. Quelle souffrance ! La souffrance physique n'est rien. La souffrance morale qu'elle vit cette femme. La vie que cette femme menait était une vie qu'elle n'avait pas choisie. Ce n'est pas de sa faute, cette femme. Une vie qui lui avait été imposée par des circonstances peu indulgentes. Mais elle faisait tout ce qui était en son pouvoir humainement pour s'en sortir. Ainsi, pendant 12 années consécutives, elle s'appuie sur une seule et même stratégie qui s'avérera infructueuse au fil du temps. Les médecins, toujours les médecins. Chaque échec des praticiens lui fait l'effet d'une plaie ouverte, mais elle ne peut s'empêcher d'y croire encore. On ne va pas l'incriminer, à sa place on ferait la même chose. C'est alors que l'inévitable se produit, et elle est ruinée. La voilà arrivée au bout de ses limites, il ne lui reste plus rien à faire. Sa vie est terminée. C'est seulement à ce moment-là que le Seigneur se présente. Un jour, pourtant, alors que Jésus passe non loin d'elle, elle reconnaît là une opportunité. Une opportunité différente des autres, mais une opportunité quand même. Elle a entendu parler de Jésus et sait qu'il guérit les malades. Bien qu'il ne ressemble à aucun des docteurs qui l'ont examiné sans succès. Une lueur d'espoir d'un seul coup se rallume en elle. Se pourrait-il que cette fois-ci soit la bonne ? Doit se demander. Mais le tableau qui lui fait face est tout de même préoccupant. Puisqu'il nécessite qu'elle s'affranchisse de ses limites. Voilà sa responsabilité. Voilà notre responsabilité qu'on balaye, qu'on met de côté. Il faut qu'elle s'affranchisse de ses limites qui lui avaient été imposées durant toutes ces années. Celle de se tenir à l'écart des autres. La foule autour de Jésus est nombreuse. Et elle sait qu'elle ne pourra pas faire autrement que de toucher quelques personnes en se frayant un chemin jusqu'à lui. Et pire encore, qu'il lui sera très difficile de le rencontrer personnellement. Il est très sollicité. Malgré cela, une pensée folle mais courageuse germe dans son esprit. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Juste un tout petit peu, je ne cherche pas des grandes choses. Juste le toucher. Une petite fois. Je l'imagine par la suite chasser tous les scénarios négatifs de son esprit et déterminer en n'en garder qu'un. J'irai et je le toucherai. Je m'avancerai par derrière discrètement, tout doucement, afin que personne ne me surprenne et je le toucherai. Oui, je ferai ça. Il est mon seul espoir. Mes frères et sœurs, cette histoire m'a appris le verbe oser. Oser, voilà le maître mot. Ça me rappelle mon échange avec Jean-Raphaël jeudi. Vous savez ce que je lui ai demandé ? Je lui demandais d'oser, oser laisser le Seigneur entrer dans ton cœur. Je lui demandais d'oser au moins essayer de le toucher. Je lui expliquais que le courage ne réside pas dans le fait de refuser. C'est donné à tous les humains, ça. Refuser le Seigneur, ce n'est pas une qualité. Refuser le Seigneur, ce n'est pas un courage. Puisque c'est la nature humaine. C'est comme détester. Qu'est-ce qui est bon ? C'est facile de détester. Mais le courage, c'est aimer. Le courage, c'est dire, Seigneur, eh bien, je prends sur moi, viens chez moi, habite mon cœur. Ça, c'est du courage. Le courage est celui de laisser le Seigneur entrer dans sa vie. Oser toucher le Seigneur et lui lancer ce défi. Seigneur, je te lance un défi. Viens habiter. On verra par la suite. Ça, c'est du courage. Le reste, c'est pas du courage. Oser laisser le Seigneur nous toucher. C'est le plus grand des miracles qui peut arriver à une personne. C'est ce qu'a fait cette femme souffrante. Sa situation de rejet et de souffrance est devenue une force pour qu'elle ose chercher le Seigneur. Le récit de cette femme est puissant, témoigne de foi et de guérison par la grâce. Cette femme souffrant depuis 12 ans d'une perte de sang est non seulement atteinte physiquement, mais aussi marginalisée, socialement et religieusement, car sa condition la rend impure selon la loi de Moïse. Son histoire illustre quelques vérités spirituelles. Une foi audacieuse et persévérante. Le courage d'oser. La grâce précède la loi et qui aboutit à une guérison totale, c'est-à-dire physique, sociale et spirituelle. Voilà le miracle que le Seigneur lui offre, parce qu'elle a osé. C'est un modèle pour tous les croyants, cette femme. Cette femme incarne le croyant qui, conscient de son indignité et de son impuissance, s'approche de Jésus avec une foi sincère. Son histoire nous rappelle que ce n'est pas par nos mérites ou nos efforts que nous sommes sauvés, mais par la grâce seule que Dieu, par la grâce du Seigneur qui nous offre. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce lien ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Elle illustre aussi que Dieu honore ceux qui le cherchent avec confiance et sincérité, même dans la plus grande détresse. Le récit de la femme souffrante est une invitation à s'approcher de Jésus avec foi, sachant qu'il est plein de grâce et qu'il a le pouvoir de guérir, restaurer, transformer nos vies. Il nous rappelle que la foi sincère, même exprimée dans la faiblesse, est suffisante pour recevoir la bénédiction divine. Alors la fille de Jaïrus. Si le Seigneur s'était dépêché, et je me suis posé la question, imaginez que le Seigneur s'est dépêché avant la mort de la fille. Hein? Le père serait content. Si le Seigneur s'était dépêché, certainement il aurait guéri la jeune fille mourante et tout le monde est content. Mais cette guérison ne serait pas une résurrection. S'il l'a guérie avant de mourir, ce n'est plus une résurrection. C'est juste une guérison, mais pas une résurrection. Et quel est le message pour nous spirituel? Il n'y est pas. Il a permis que la fille meure pour la ressusciter, pour que ça devienne pour nous un message spirituel et un témoignage. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. C'est une réalité spirituelle que ni Jaïrus, ni sa famille, ni la foule, ni les disciples ne semblent comprendre. À travers cette jeune fille mourante, nous avons un message spirituel vital pour notre Église. Là où l'homme cherche un bien-être temporaire et rapide et égoïste pour soulager ses souffrances passagères, le Seigneur nous offre bien mieux la métamorphose, la résurrection. Le passage de la mort à la vie, comme le grain de blé qui doit mourir pour ressusciter et porter des fruits. Le Seigneur ne veut pas de rafistolage dans notre vie. Il ne veut pas de rafistolage. Il veut quelque chose de totalement nouveau. Une transformation. Et la parabole du drap neuf illustre bien cette réalité spirituelle. Personne ne coud une pièce de drap neuf dans un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Le Seigneur ne veut pas qu'on rafistole notre vieil habit. Il veut le faire disparaître, mes frères et sœurs, en ne passant par le brusement, les épreuves, mourir à soi-même. On ne dépend plus de nous, on dépend de lui d'une manière progressive. L'épisode de la fille de Jairus est un puissant témoignage de la maîtrise de Jésus sur la mort et de sa mission de rédemption. Cet événement illustre la promesse de la vie éternelle et la résurrection par la foi en Christ. Devant une mort apparente, le Seigneur se présente comme notre espérance. Ce miracle ne se limite pas à une simple résurrection physique, mais une résurrection intérieure. En conclusion, les deux femmes, la femme souffrant d'hémorragie et la fille de Jairus, sont issues du même peuple. Il est en train de nous dire, ces deux histoires, c'est la même église. Et dans cette église, ce cheminement nous concerne. Sinon je ne vois pas l'utilité de le mettre dans la Bible, s'il n'a pas d'impact dans notre vie d'église et vie chrétienne individuelle. Elle représente deux réalités distinctes, mais complémentaires du peuple de Dieu. La femme qui souffre, j'insiste, depuis 12 ans, incarne Israël blessé, impur, selon la loi de Moïse, à cause de son flux de sang permanent. Elle symbolise un peuple en souffrance. Ça peut être notre cas, à titre individuel. Nous sommes peut-être les cas, nous, en souffrance. Éloignés de Dieu à cause du péché et de l'impureté, mais qui, dans un acte de foi radical, cherche à toucher le Seigneur pour être restauré. Son histoire est une métamorphose de l'ancienne alliance marquée par les sacrifices et la purification rituelle, mais qui trouve son accomplissement en celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, Jésus-Christ. Dans les deux cas, il est question... La fille de Jairus, âgée de 12 ans, représente l'Israël nouveau, appelé à la résurrection. C'est l'Église. La nouvelle alliance dans laquelle le peuple de Dieu, jadis plongé dans la mort spirituelle, retrouve la vie par l'intervention directe de Jésus. Son réveil par Jésus, Talitha cum, ça veut dire petite fille, mets-toi debout. Ça veut dire ça, l'interprète. Cum, ça veut dire cumi, cum, mets-toi debout. Hop, ça veut dire en fait, on est assis, on se met debout. Et en fait, il y a une remise en mouvement qui se fait, qu'il veut pour notre Église. Il est en train de nous dire, mettez-vous debout. Pas rester, ouais, chrétien, tout est... Non, mettez-vous debout, comment debout? Vous passez de la mort à la vie. Et c'est comme ça que le Seigneur se plaît dans son Église. C'est une annonce du renouveau de la restauration de l'Église et la restauration de la Seigneurie dans son Église. Dans les deux cas, il est question du chiffre 12. La femme souffrait depuis 12 ans et la fille de Jairus avait 12 ans. Tiens, comme Inès. Ce nombre, dans la Bible, symbolise un peu d'humilité, ce que je vais dire par la suite. Ce symbole symbolise la plénitude et l'accomplissement divin. C'est la perfection, en fait, le chiffre 12. Je parle du 12. Ce chiffre résume tout le projet divin qui apparaît comme fil conducteur dans la Bible. Toute la Bible nous dit, la culture rabbinique nous dit toute la Bible, c'est le chiffre 12. S'il faut remplacer la Bible, de lui donner un titre, 12, c'est ça, le chiffre 12. C'est-à-dire qu'à travers ce cheminement de ces deux femmes, c'est ce qu'on doit, on doit prendre leur cheminement, leur message, comme notre cheminement. Ce chiffre résume tout le projet divin qui apparaît au fil conducteur dans la Bible. Le cheminement de la création vers le Christ. Le cheminement de l'humanité qui commence en Adam, le premier Adam, vers le deuxième Adam, Jésus-Christ. C'est cet accomplissement et cette plénitude qui sont représentés par le chiffre 12. Un chiffre bien présent aussi dans le livre de l'Apocalypse, et plus précisément dans la description de la Jérusalem céleste, qui symbolise l'accomplissement ultime du royaume de Dieu. Apocalypse 21:12, la ville a 12 portes, 12 anges, 12 tribus. L'Apocalypse 21, 14. 12 fondements, 12 noms, 12 apôtres. Et la taille de la ville est décrite en multiples de 12, confirmant sa perfection, son lien avec l'ordre divin. Dans la Bible, le chiffre 12 souligne la transition entre les deux alliances. Les 12 tribus d'Israël vers les 12 apôtres. L'ancienne alliance, nouvelle alliance. Ce cheminement est représenté par la souffrance de la femme devant l'imperfection de la loi mosaïque et la résurrection de la fille de Jairus qui incarne l'accomplissement et la vie nouvelle offerte par Jésus. Cher Sarira, elle est où Sarira? Cher Sarira, c'est un message pour toi d'après notre discussion d'hier avec Viviane et tout ça. Si ça ne montre pas la grande place, l'honneur que Dieu met en la femme, en mettant deux femmes pour nous enseigner toute l'Église, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Vous êtes valorisé au point d'utiliser deux femmes pour enseigner l'Église. Ça s'ajoute à notre discussion hier. Ces récits reflètent notre propre cheminement spirituel. Sans Christ, nous sommes spirituellement morts comme la fille de Jairus, ou impurs et désespérés comme la femme perdant son sang. En mettant notre foi en Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie et de l'exclusion à la communion avec Dieu. C'est par la foi que nous sommes guéris, restaurés, réconciliés avec Dieu, et c'est ce Christ qu'il faut présenter autour de nous, autour de vous. Je termine par la lecture de ce passage qui résume tous nos propos. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 15 à 18, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » J'espère que vous m'excuserez, parce que j'ai pris plus de temps, mais vu la longueur du texte, je n'ai évoqué que 2% de ce qu'il fallait être évoqué. Que le Seigneur nous aide. Amen.